Vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous et à toutes. Bien, nous allons reprendre aujourd'hui la conclusion de la série qui était sur l'histoire du XXe siècle à travers la figure de quatre architectes. Donc, c'est la conclusion, on peut dire, sur le XXIe siècle, puisqu'en fait, je m'étais limité à cette période qui était une période très importante de transition entre le 19e et l'époque actuelle. Et on peut dire que le 21e siècle est une sorte de prolongement, éclatement, et nous allons parler de cela. Alors j'avais limité à quatre architectes parce que là, je vous l'avais déjà dit, mais une arborescence trop complexe avec tous les courants, toutes les tendances, c'était quelque chose d'abord d'extrêmement compliqué et confus, et il valait mieux dégager ce que je pourrais appeler les quatre phases successives à travers les figures porteuses de cela. Bon, on peut appliquer la même démarche à toutes les formes d'art, je pense, mais sans se perdre dans les petits maîtres et les différents petits courants qui sont souvent un peu narcissiques et sans grande influence sur, on peut dire, sur la construction d'une manière générale. Alors, parce que le choix que j'avais fait, il s'agit de quatre architectes, bien sûr, au-delà de leur forte personnalité et de la qualité de leurs œuvres propres, ce qui m'importait, c'était leur influence. Alors, la période actuelle, le 21e siècle, on peut dire qu'elle suit la dernière phase, c'est-à-dire l'époque postmoderne. Alors, l'époque postmoderne, comme j'avais expliqué, c'est une sorte de rupture avec la doxa, avec des règles qui étaient celles du mouvement moderne qui faisait suite à aussi un ensemble de règles qui était celle de l'architecture classique, et on peut dire que les règles de l'architecture classique avaient duré durant des siècles. On peut regarder même, ça commençait l'architecture classique dans la période grecque, puis gréco-romaine, et ensuite, après une interruption, cela reprend, on peut dire, avec l'art roman, la Renaissance, avec peut-être une petite parenthèse gothique, mais qui est assez limitée sur le nombre de bâtiments emblématiques. Et puis, évidemment, le grand âge classique et aussi le néoclassique. On arrive au 19e siècle et on aborde même le classique en début de 20e siècle. Donc, l'architecture moderne marque une rupture pour un temps très très long, mais on peut dire aussi que les principes de simplicité, de structure, d'absence d'ornement de l'architecture moderne continuent un peu partout. Alors, dans une manière qui peut être simplifiée, on peut dire aussi caricaturale, mais où n'émerge pas vraiment, un style particulier. Alors, on peut dire la caractéristique de l'architecture actuelle, c'est que justement, elle échappe à ces grandes tendances que j'avais donc développées à travers les quatre architectes, qui étaient une sorte on peut dire en caricature des modes, mais aussi d'une manière plus généreuse, on pourrait parler de courants, de tendances, de styles. Et aujourd'hui, on a, pour des raisons multiples qu'on va essayer d'expliquer ou d'essayer de comprendre, on a une multiplicité de figures et nous avons perdu donc ce grand style. Alors, on a perdu ce grand style, on a perdu aussi des grands courants, et on a une sorte d'explosion qui tient plus au... aux personnes et aux, que à des, on peut dire, qu'à des courants régionaux, des courants nationaux qui, avant, pouvaient avoir une lecture. Donc aujourd'hui, on a d'une part, alors c'est un phénomène, vous me direz, qui se passe dans de tous les domaines. On a une sorte de mondialisation où il est impossible de distinguer qui fait quoi et où, se, où c'est. Donc si on a des photos de lieux, il pourrait être à n'importe quel endroit, et des pays qui étaient même, on peut dire, préservés, si j'ose m'exprimer ainsi, comme l'Asie, on rejoint, ou le Moyen-Orient, les villes et les constructions sont tout à fait les mêmes que celles de New York, Chicago ou Londres. Et donc, on a cette uniformisation. Alors, je ne vais pas porter de jugement moral sur cela, mais essayer d'expliquer quelles sont les différentes manières de voir les choses, et puis d'essayer d'en tirer une leçon, et d'essayer aussi de comprendre, puisque c'est aussi le titre de l'émission « Où vivrons-nous demain ?», même si c'est un titre ironique, puisque je ne prétends pas lire dans le futur, mais enfin, on peut toujours essayer d'imaginer, de prévoir quelles vont être les tendances à venir. Alors, on peut dire qu'il y a aujourd'hui un mouvement que l'on pourrait appeler vertueux, qui est apparu il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, et vous allez comprendre de quoi je veux parler, c'est-à-dire le mouvement qui est lié avec l'architecture durable, même si le mot me paraît assez abusif, et c'est celle qui se réclame de l'écologie. Donc, on a une caricature où l'architecture qui était celle d'avant aura été celle de des passoires thermiques, celle qui va détruire l'environnement, parée de toutes les maux. Et on a, évidemment, par rapport à cette vision caricaturale d'ailleurs, qui est un peu gênée par rapport à l'architecture ancienne et avec le patrimoine. Donc on a une sorte de d'équivoque, on ne sait pas très bien, parce que c'est, on parle du passé en général, mais de notre côté, on a les sentiments qu'il faut respecter les bâtiments anciens, donc on va charger l'après-guerre, et on a des déclarations d'architectes connus qui disent qu'il faut, par exemple, raser tout ce qui a été construit depuis les années 50. Tout ça était assez excessif, et c'est souvent repris par la presse sans avoir aucune analyse fine de tout cela. Alors, j'ai déjà parlé du côté abusif de se décerner soi-même des brevets de vertu, mais ce n'est pas la responsabilité des architectes seuls, puisque en fait ils répondent à une demande, et une demande qui est, on peut dire, généralisée à travers la presse et à travers aussi les élus politiques et le mouvement de l'écologie, qui est assez important, excusez-moi, sur l'influence médiatisée. Et on peut dire que à travers les concours, à travers les prescriptions et les réglementations, on a cette architecture qui se prétend vertueuse, et tout le monde est obligé de se donner des brevets de vertu, comme avant c'était l'Église catholique qui demandait à avoir des indulgences pour gagner le ciel. On est à peu près dans le même paganisme assez infantile, et vous me permettrez d'avoir une critique sur cela. Donc, Ça, c'est une partie importante. Et alors, paradoxalement, on a en face de cela un mouvement, on peut dire, sans contrainte, avec une demande des libertés totales, et qui est en rupture avec l'architecture fonctionnelle du mouvement moderne, qui, elle, était une architecture qui ne prétendait pas à la vertu, mais qui, quelque part, l'était, puisque elle répondait au fonctionnalisme. Ça veut dire que on répondait aux besoins du logement, il fallait la qualité de la lumière, des logiques d'habitation, des choses dont on ne parle quasiment plus, et aussi que les bâtiments devaient répondre à leur fonction. Et là aussi, c'est une thématique qui est de moins en moins entendue. On dit par exemple, si on ouvre les journaux, on a une inauguration d'une école, on dit c'est une école qui est révolutionnaire, et puis évidemment on ne parle absolument pas de la relation des enfants avec le bâtiment, et la relation aussi des enseignants dans le cas d'une école. On va parler qu'on a mis des chauffe-eau sur le toit et on a mis un double matelas pour se protéger du froid, pour que le froid ne puisse pas faire réchauffer la température. Enfin bon, on connaît le discours sur le climat. Voilà, donc, vous voyez mon approche qui est assez critique par rapport à cela. Et comme je vous disais, on a paradoxalement une liberté de forme qui peut-être est une sorte de réaction par rapport à cet ensemble de contraintes qu'auraient les professionnels. Et on a des architectures que j'appellerais dinosaures, avec des formes assez extravagantes, et que l'on voit dans les formats télévisés, dans les émissions, on les voit aussi, je veux dire, près de chez nous. Alors, je ne vais pas citer forcément à Toulouse, mais on a par exemple le projet de la tour occitane, qui est une sorte de bâtiment qui a une forme hélicoïdale, et évidemment qui ne correspond pas aux données, comme je vous disais, structurelles, d'économie, de fonction, mais qui cherche à être une sorte de sculpture, de signal. Et je crois que cela donne et valorise les élus, et les architectes n'en parleront pas, dans une surenchère. Donc, on a aussi des bâtiments exceptionnels qui vont être ceux de des grands projets, par exemple les gares. On a l'exemple par exemple de la gare de Lyon par l'architecte espagnol Calatrava, qui est une sorte effectivement de grand squelette assez inutile et aussi très très cher, mais il semble que ça soit aussi aujourd'hui une des manières de marquer l'espace en ayant des bâtiments extravagants. La Fondation Vuitton à Paris, je pense que tout le monde connaît cette image, on a une sorte de grand bâtiment brinque-ballant avec des formes qui évidemment ne correspondent absolument pas au programme qui est celui de galeries, de salles d'exposition éclairées naturellement, qui demanderait sur un plan fonctionnel, des salles tout à fait simples, et on a un bâtiment qui ne correspond pas à cela. Donc, on va marquer une pause musicale et on va reprendre notre analyse sur les styles contemporains.
must have music in the land. For everybody loves a band. A good old rousing melody is a joy and inspiration. 100 million folks agree that a tune can stir a nation. So music master, take command. Our hearts will beat to greet the band. The drums roll loud, and the trumpets call, while the people shout, strike up the band. Hear the cymbals ring, calling one and all to that happy swing. Strike up the band, Yankee doo 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 doo. We'll come through, Yankee doo doo doo. For that red, white, and blue doo doo. Lend a hand, the flag unfurled. We can face the world. Hey, leader, strike up the band.
Alors je vous disais qu'il y avait donc les architectures vertueuses, il y a donc de ce côté-là une uniformisation puisqu'il faut construire avec les matériaux biosourcés, la terre, le bois, même dans des pays où le bois est rare ou du moins enfin le bois de construction est rare qu'il faut importer. Donc c'est une sorte de tribu à la prise de conscience entre guillemets et il faut marquer sa vertu avec quelque chose qui est visible. Donc ce n'est plus ça doit être ce n'est plus du bois qui va être à l'intérieur, mais c'est du par exemple des charpentes qui vont être non visibles. Ce qui est important, c'est que ce soit les façades en bois, et peu importe que au bout de 4 ou 5 ans il faut traiter le bois et ou même quelquefois le changer. Donc c'est la vertu annoncée. Alors comme je vous disais, le deuxième, c'est les bâtiments dinosaures Diplodocus avec des formes extravagantes et que l'on va retrouver à n'importe quel endroit du monde à peu près de la même manière. Et puis, évidemment, dans ce cas-là, on a totalement oublié les styles nationaux, on a complètement oublié les styles régionaux, on est dans un rapport qui est totalement autre, qui est celui de la mondialisation. Et puis, il y a donc une autre typologie qui peut pas dire qu'elle est ancienne, mais on la retrouve par exemple dans l'architecture révolutionnaire utopique, où on avait avec des architectes comme Lequeux, Ledoux, qui ont assez peu construit. Je pense que Lequeux a très peu construit, mais il a dessiné et il faisait des bâtiments d'architecture parlante. Par exemple, un abattoir, il était en forme de vache, il avait des signes aussi visibles de ce qu'il était. C'est-à-dire que le bâtiment se lit par sa forme lui-même. Alors, on a par exemple la grande bibliothèque de l'architecte Perrault qui a annoncé, et paraît-il que c'était un élément qui a fait que ce bâtiment a été choisi, il a fait un bâtiment où les quatre bâtiments qui étaient des bâtiments en angle d'un rectangle. Alors, il y avait le rectangle pour la lecture qui était encaissé, et les quatre bâtiments étaient comme des livres ouverts, dans lesquels, effectivement, il y avait des livres. Donc, du moment qu'on mettait des livres, le bâtiment doit être en forme de livre. Alors là, évidemment, on est de ce que j'appelle l'architecture parlante, et qui n'est pas, contrairement à ce que l'on raconte, une architecture symbolique. La symbolique, c'est pas ça. La symbolique, c'est justement que la forme ne soit pas celle qu'elle elle doit signifier. La symbolique, elle est toujours abstraite. Donc, la bibliothèque en forme de livre, on a eu d'autres exemples. On a eu aussi Feu Roland Castro, qui avait fait à Angoulême un bâtiment où la façade se dépliait comme un livre. On trouvait ça tout à fait étonnant, et on a eu des exemples qui continuent. Un des plus récents, c'était le musée qui est dans le désert, dans le Moyen-Orient, par Jean Nouvel, qui est un musée en forme de rose des sables. Alors, l'architecte dit, j'ai choisi la symbolique de la rose des sables pour faire le musée. Mais non, la rose des sables, ce n'est pas une symbole, c'est un objet du désert. Et de faire un musée en forme de cela, c'est, je pense que c'est du domaine de l'infantilisme. Les enfants, dans les contes d'enfants, le cordonnier habite dans une chaussure. Aussi, on a ces exemples-là, on peut dire, dans les Disneyland ou autres lieux de foires d'attractions. Par exemple, à Nashville, la patrie du rhythm and blues, et on a des restaurants en forme de guitare. La maison, je crois que c'était Yvette Horner qui avait une maison en forme d'accordéon. Mais tout ça est un peu infantile et ridicule, et je pense pas que tout cela sortait sérieux, mais apparemment il n'y a aucune critique et les gens trouvent ça absolument magnifique. L'architecte Venturi, donc, dont j'avais parlé, avait appelé cela les canards, parce qu'il avait pris l'image d'un petit stand où on vendait des canards, ou du moins des canards cuisinés, à Las Vegas, et qui était un canard lui-même, un grand canard blanc, avec une petite fenêtre dans laquelle il y avait un comptoir où on vendait la marchandise, et qui était effectivement de la même forme que du bâtiment. Donc, il appelait ça les bâtiments canards, duck en anglais. Ce qui était une fantaisie assez amusante, effectivement, devient aujourd'hui une sorte de, on peut dire, oui, de courant en soi-même. Alors, au-delà de ces différentes tendances dont je vous parle, il y a aussi un phénomène dont on doit parler, c'est-à-dire que on a un émiettement de la, on peut dire un émiettement de la diversité des formes. Alors je m'explique. Donc comme je vous disais tout avant, il y avait donc les grands styles. L'architecture classique qui a duré donc une très grande période. Il y a eu aussi des périodes avec l'architecture romane. Et puis il y avait des styles aussi identifiables. L'architecture islamique, par exemple. On avait des identités géographiques, civilisationnelles, culturelles. Alors évidemment, tout ça n'existant plus, on a eu ensuite les grands mouvements, alors dont je vous avais parlé dans les émissions précédentes sur l'histoire du 20e siècle, qui étaient donc des grands courants architecturaux. Et puis ensuite, on a eu, dans la période donc fin du 20e siècle, début du 21e siècle, des personnalités qui ont créé des styles, ce qui était différent de la période d'avant, puisqu'il s'agissait de courants avec une influence. Tandis que là, on a un morcellement où chacun trouve son style et qui est souvent fait de multiplicité, d'emprunts différents. Et aussi, alors c'est l'ultime élément, c'est-à-dire que les architectes n'ont plus, on peut dire, de style propre, comme on peut distinguer en musique, on distingue Bach, on distingue Mozart, même s'ils sont pris dans le, on peut dire, dans le style général de leur époque. C'est-à-dire l'individualisation. Et aujourd'hui, l'individualisation, elle n'est même pas référencée à un courant. Il s'agit de faire un bâtiment différent pour chaque projet. Par exemple, l'architecte Nouvel, qui est la grande star de l'architecture française, appelle ça la contextualisation. En fait, il fait des bâtiments qui n'ont rien à voir avec le contexte, puisque la contextualisation, ça devait être exactement le contraire. Un bâtiment qui se fonde à la masse, qui se fait oublier, que l'on ne distingue que quand on y est, mais qui doit se couler dans le paysage. Il fait, au contraire, un bâtiment extravagant, qui se distingue et qu'il appelle justement contextualisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement le contraire de ce qui est dit. Et là aussi, je pense que nous avons dans une absence totale de critique architecturale aujourd'hui, et je dirais aux jeunes de l'école de journalisme qui sont les auditeurs de cette émission, qu'il y a aussi des carrières peut-être dans ce domaine où il serait intéressant de revitaliser une critique sur l'urbanisme, l'environnement, l'architecture, qui ne soit pas qu'une reprise du pressbook et des communiqués de presse des architectes, mais qui soit une critique vraiment critique. Et pour conclure cela, la question que l'on pourrait se poser, c'est aussi une des raisons. Alors, la première des raisons de ce morcellement, de cet éclatement, je l'avais donnée. Bon, c'est la mondialisation, mais ça ne suffit pas. Et je pense qu'il y a une raison, et dont ma génération est responsable, c'est la prolifération des concours d'architecture. Donc les concours d'architecture étaient quelque chose, une procédure exceptionnelle qui s'est passée dans l'histoire avec plus ou moins de bonheur et où on avait des projets en compétition. Et justement la génération de 68 a fait imposer par le législateur, plus que la mise en compétition des architectes qui pourraient, c'est-à-dire que on a des architectes qui sont confrontés par rapport aux bâtiments qu'ils ont déjà construits, par rapport à la manière dont ils travaillent. On pourrait avoir des commissions qui choisissent un architecte. Il ne s'agit pas d'une mise en compétition, mais il s'agit en fait de concours de projets. Et là, c'est-à-dire que c'est assez étonnant. C'est-à-dire que si on généralisait cela, c'est-à-dire qu'un éditeur demandait à ses auteurs d'écrire des livres, puis il n'en éditerait qu'un par rapport aux autres en permanence, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus... tout le monde serait soumis toute sa vie à cette procédure. Je ne sais pas, quand on va chez un médecin, on regarde pas, on lui demande pas de faire à blanc les opérations avant de le choisir. Donc c'est une procédure qui est, il faut dire, qui a des effets néfastes, d'une part à l'appauvrir la profession d'architecte, parce que c'est énormément de travail qui est très peu rémunéré. Elle donne aussi, je pense, pour le public, l'impression que tout ça n'a pas de grande valeur. Et aussi, elle va produire l'effet d'une course à l'échalote où on essaie d'être différent. C'est-à-dire que justement, toutes les qualités d'un bâtiment qui vont être des qualités de, comme je vous disais, de mode de vie, des fonctionnalités, de respect des coûts, de la structure, du vieillissement, sont des choses évidemment qui ne peuvent pas être jugées. Et on ne va juger que l'extravagance des projets. Et on a une course, justement, dont les architectes certains tirent leur épingle du jeu, mais la plupart de la profession sont éliminés justement par le refus de rentrer dans cette course à l'exploit. Je pense que cette période sera jugée dans le futur assez sévèrement par ces extraits, par ces excès et par cette extravagance. Donc, je finis sur une note pessimiste, mais on n'est pas toujours dans des notes optimistes. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. C'était « Où vivrons-nous demain ?», une émission de Jean-Pierre Estrampes. Je remercie l'excellent Léo qui était à la technique et puis les trois auditeurs de l'école de journalisme qui ont une présence silencieuse et aussi compréhensive. À la semaine prochaine.